France Culture. La série musicale. Zoé Sfez.
Le Soudan est un pays d'une immense diversité. Il me semble qu'il y a environ 400 langues et groupes différents, et chacun de ces groupes ethniques a son propre genre musical. Ça va des Nubiens du Nord au Cheguia, avec des artistes extraordinaires. Il y a des musiques qui viennent du Sud, de l'Ouest et de l'Est, absolument fascinantes, que même une partie des Soudanais ne connaît pas.
Well, I'm part of the Sudanese diaspora. I'm very much a part of it. I live in Brooklyn, and it's very.
Je fais partie de la diaspora soudanaise. J'habite à Brooklyn et c'est ma maison. Il y a quelques années encore, je rêvais de rentrer au Soudan. Mais je ne crois pas que je pourrais y vivre en fait. J'ai trop changé. Et le Soudan a trop changé aussi. Il y a cette erreur commune à toutes les diasporas. Nous emportons un souvenir figé de notre chez-nous. Nous oublions que ce chez-nous continue de changer, de se transformer, et qu'il n'a pas besoin de nous.
France Culture,
la série musicale Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de toutes les épopées. Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale. Bienvenue. C'est l'un des pays dont la tradition musicale est la plus riche au monde, à l'image des nombreuses cultures, groupes ethniques, linguistiques qui l'habitent. C'est aussi l'un des pays qui souffre le plus et dont les chanteurs, les chanteuses, les poètes, les compositeurs ne cessent depuis la nuit des temps, le temps des pharaons ou du royaume de Kouch, et jusqu'à ces années 2020 de chanter la beauté et de pleurer la désunion. Ode au Soudan, épisode 2 ce samedi. Dans le premier épisode, que vous pouvez retrouver sur l'appli de Radio France, on vous a raconté, on vous a donné à entendre humblement comment, au tournant du 20e siècle, alors que le pays était encore sous le joug égyptien et britannique, surgit au Soudan une tradition musicale moderne, hyper envoûtante, immensément riche, avec un fond de répertoire, la hakiba, qui chantait encore jusqu'à aujourd'hui. Cette indépendance du Soudan en 1956 va donner lieu, jusqu'aux années 80, à l'une des scènes musicales les plus fertiles et les plus influentes dans toute l'Afrique, avec une activité discographique complètement démesurée et passionnante. Et malgré sa jeunesse, le Soudan va en réalité très vite envoyer une bonne partie de ses enfants en exil. De la construction du barrage d'Assouan dans les années 60, qui va disperser tout un peuple et toute une culture, les Nubiens, à travers le pays et au-delà, à la deuxième guerre civile soudanaise, qui commence en 83 et durera jusqu'en 2015, occasionnant une crise humanitaire absolument terrible, succèdent les 30 ans de dictature d'Omar el-Béchir à partir de 89, et qui va envoyer en exil une bonne partie des Soudanais et de cette scène fascinante. Une partie qui parfois reviendra en 2018 et 2019 à l'aube d'une révolution démocratique et populaire qui a suscité beaucoup d'espoir et qui s'est fait essentiellement en musique, avant d'être écrasée dans le sang par une guerre qui a aujourd'hui fait plus de 200 000 morts et quasiment vidé Khartoum, la capitale, et Omdurman, le centre, le cœur culturel palpitant du pays. L'histoire d'exil Et en fait, partout dans la musique soudanaise, ce répertoire des chansons dites « du retour » est présent depuis les années 50 et il est chanté, nourri aujourd'hui par une diaspora soudanaise qui, de New York à Paris, du Caire au Golfe, produit un répertoire ou reprend un répertoire toujours aussi palpitant. Aude au Soudan, chanter l'exil, c'est tout de suite dans la série musicale sur France Culture. Très bon exemple ici de ce que peut le Soudan. Vous entendez ici Azizni, l'une des plus grandes chansons du célèbre Mohamed Wardi, dont on vous a beaucoup parlé, né en 32 à Khartoum et mort en 2012, qui reste l'une des plus grandes icônes de ce Soudan, qui chantait autant en arabe qu'en nubien. Repris ici par Al Roubo, le roi de ce nouveau style musical qui est très fort, qui était très fort au Soudan jusqu'à la Révolution, avec, vous entendez ici, ces intercalations du synthé et de la flûte. C'est un genre qui chante les problèmes, les revendications des classes les plus populaires au Soudan. Un très bel exemple de circulation de ces répertoires écrits parfois dans les années 30, 40, qui reprennent des poèmes dont parfois on ne connaît même plus les auteurs tant ils sont légendaires, qui continuent de vivre sous les doigts de Soudanais d'une vingtaine d'années. Pour évoquer ce répertoire de l'exil, écoutons l'une des voix les plus chéries au Soudan, l'une des plus importantes qui a connu l'exil, à la fois en Russie et évidemment au Caire. Il s'appelle Mustapha Sid Ahmed, il a autant chanté l'amour que les immenses problèmes de la classe populaire. Il a aussi, évidemment, chanté l'exil. Écoutez ici l'un de ses plus beaux titres, « Voyager, Safir ».
العسل في عيوننا تتفجر مدينونا مساحات العسل في عيوننا تتفجر مدينونا بطاقات دعوة رجع تسابع عينين من الفرحة دموع للحاضرين فجت زغاريد غطت الدنيا ووعى فرح الرجوع منيا صدى قريب الحاضر
أسف على الماضي كثير من عاتب الحاضر ولا أسف على الماضي سر الرؤية من قلبك بيد الشوق وإنسانك نغم فنان يعيش راضي كثير من عاتب الحاضر ولا أسفا على الماضي كثير من عاتب الحاضر ولا أسفا على الماضي
Voyage, les aéroports bruissent d'adieu, devant toi, le ciel est riche, il chante, des espaces de tristesse et la ville sous nos yeux qui explose, la ville et la flûte, nous blâmons souvent le présent, aucun regret pour le passé. Mostafa Sid Ahmed, dont les chansons ont beaucoup résonné pendant la longue révolution, les longs moments et magnifique moment de révolution populaire, une révolution citoyenne sur laquelle la réalisatrice Hein Bedeb revient dans son film Soudan, souviens-toi, encore visible dans les salles, précipitez-vous, et dont France Culture est partenaire. Cette révolution profondément musicale, poétique, qui a vu revivre les grands titres écrits par cet homme qui était né en 53 dans le centre du pays et qui, très vite, est devenu l'une des plus grandes voix d'abord de cet âge d'or, évidemment de la musique soudanaise, mais ensuite l'une des plus grandes voix de contestation contre la dictature mise en place par Omar el-Béchir en 1989. Il chantait autant et surtout les conditions des classes populaires. On aurait pu vous jouer Am Abdel Rahim, l'un de ses grands titres qui raconte l'expropriation et la mort d'un paysan. Évidemment par le pouvoir, mais aussi ses chansons d'amour, nombreuses, magnifiques. Ses chansons évidemment de contestation, les deux jours de la souffrance, les enfants du tiers-monde. Et cet immense répertoire de chansons dites d'exil. Une chanson qui s'appellerait « Avec les oiseaux », une autre qui s'appelle « Oiseau migrateur » ou encore « Passeport ». Mostafa Sid Ahmed qui quitte le Soudan quand Omar el-Béchir prend le pouvoir, s'installe en Russie, puis ensuite en Alexandrie, puis au Caire, qui ensuite émigrera au Qatar et qui un peu incarnant cette génération de Soudanais obligés de vivre en exil, va mourir prématurément en 96 d'une insuffisance rénale mal soignée puisqu'il n'est jamais vraiment chez lui. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, les artistes qui sont issus de cette culture soudanaise, qui sont nés ou qui parfois sont nés en exil, et qui sont pourtant évidemment imbibés de cette culture musicale, de ses doubles apports, des apports profondément est-africains, et puis ses grandes lignes, ses grandes façons de chanter arabe, avec ce pays qui a été traversé par toute une foule de cultures, de grands mouvements. L'une de ses voix, c'est celle du groupe Sinkan. Il est notamment porté ce groupe par Ahmed Abdullahi Galab, qui est né en 83, lui en Angleterre, de parents professeurs, qui est ensuite retourné vivre au Soudan avant de repartir s'installer aux États-Unis. Vous allez l'écouter ici dans un album qui a beaucoup compté en 2017, bien qu'on vous conseille ardemment son dernier album qui vient de sortir. Un musicien à la fois évidemment profondément américain, puisqu'aujourd'hui c'est là-bas qu'il est installé et qu'il produit, qui a autant travaillé le crowd-rock que le prog-rock, que l'électronique, que le jazz, et qui confesse que même si la plupart de ses albums, et d'ailleurs de ses premiers albums, étaient en anglais, quand il compose, c'est bien l'arabe qui lui vient en premier lieu. Pourquoi ? Eh bien parce que quand il était petit, il écoutait littéralement de tout, à l'instar de la plupart de ses musiciens dits de la diaspora. Sinkan est un très bon exemple de cette manière qu'a le répertoire, les sons et les matrices rythmiques soudanaises de perdurer, ses extraordinaires résiliences, tout ce qu'elle apporte à des musiciens qui vivent aujourd'hui entre différentes cultures. Kulushi Tamam. Tout ira bien, tout va bien. Un très bel exemple ici dans l'un de ces titres de Sinkan, de fusion de ce qu'apporte évidemment l'héritage soudanais des santé du funk et des pulsations, disons, africaines. Cet ADN musical de Sinkan, il est produit évidemment par ceux qui écoutent ses parents lorsqu'il est un tout jeune enfant et qui va marquer évidemment l'intégralité de ce qu'il produira plus tard. Quand j'étais petit, mes parents adoraient la musique, comme tous les Soudanais. On en jouait en permanence. On écoutait évidemment beaucoup de musique d'Afrique de l'Est, beaucoup de musique soudanaise, mais aussi somalienne, éthiopienne. Évidemment, sud-africaine, Marianne Makeba, les Sohatela Queen. Pas mal de musique aussi, évidemment, de l'Ouest. Fela Kuti, musique du Nigeria. Et puis, beaucoup de Bob Marley, du Abba. Tout ce que la musique occidentale avait produit. Ça a évidemment contribué à façonner toute la musique que je produis. C'est mon ADN musical depuis toujours. Que cette musique a été écrite par un membre de la diaspora ailleurs qu'au Soudan, alors qu'il n'en est rien. Vous entendez ici Kamal Keïla, dit le James Brown ou le Fela Kuti du Soudan. C'est un enregistrement qui date de 92, mais des chansons que cet homme faisait vivre depuis les années 70 et qui montrent bien, et on découvre tout ça grâce au travail acharné du label Habibi Funk, ce courant incroyable du jazz soudanais, après une compilation géniale qu'on vous a donné à entendre la semaine dernière, qui vous fait découvrir le travail de Cheikh Habil Ahmed. Vous découvrez ici cette voix de cet homme qui chante en anglais déjà à l'époque, et qui, dans les années 70, puis dans les années 80, puis évidemment 90, va avoir véritablement une vraie présence à Omdurman, le centre névralgique culturel du Soudan, même si évidemment il aura beaucoup de mal à enregistrer un disque tant la censure n'est pas tout à fait d'accord avec ce genre de musique. Il n'a jamais vraiment été emprisonné à cause de sa musique, mais il a pris beaucoup de risques puisque ses chansons en arabe parlent essentiellement d'amour, de bonheur, voire de sensualité, et que lorsqu'il passe à l'anglais, ça devient en général très politique. Ici, on a cette très belle chanson « Soudan et le cœur de l'Afrique », lui qui prenait une réconciliation, encore une fois, une union, un pays sans tribalisme, hein, c'est le terme qu'utilisent les Soudanais pour décrier ce principe qu'ont utilisé la plupart des pouvoirs politiques, qui consistait à dresser les communautés, les religions, hein, les unes contre les autres pour mieux dominer. L'album d'ailleurs qui nous permet de découvrir sa voix s'appelle « Christians and Muslims », lui qui prenait aussi la paix entre musulmans et chrétien, est une figure qui nous montre bien combien, en réalité, les musiques du Soudan ont toujours été capables, au Soudan, d'intégrer, finalement, et de faire naître des musiques déjà ouvertes sur le monde, et combien aussi la diaspora doit à cela, et combien ces rythmes soudanais sont profondément résilients et à la fois solubles. Une autre grande voix de cette fameuse période dite de l'âge d'or qui continue à résonner, qui est largement reprise, c'est celle d'Abdelaziz El Moubarak. Abdelaziz El Moubarak, vraiment lui aussi un de ses membres de l'âge d'or du Soudan, qui sera l'un des rares d'ailleurs artistes à pouvoir passer les frontières du Soudan. Lui, il est particulièrement célèbre, comme vous l'entendez ici, pour cette voix si douce et ses mélopées, ses chansons d'amour qui sont assez bouleversantes et son incroyable maîtrise du oud, puisque c'est lui qui joue avec cet accordéon, toujours un aspect comme ça de ce répertoire très simple, oud, accordéon, qui marche très très bien. Vous retrouverez souvent cet accordéon, puis ensuite ses synthés aux côtés d'instruments traditionnels soudanais, qui donnent vraiment cette espèce d'élan assez caractéristique. En 76, il entame une tournée mondiale parce que les Roumains, figurez-vous, sont assez fans de sa musique, et il sera le premier soudanais à se produire à Glastonbury au Royaume-Uni. Il a beaucoup tourné en Italie, en France, en Allemagne. Il fait partie de ces rares soudanais qui ont réussi à s'exporter avec une influence aussi plus tard dans certains albums du reggae, et puis une approche très rhythm and blues finalement de sa musique, assez dépouillée. Il écoutait du Bob Dylan et il le disait. J'ai envie qu'on écoute, puisque à l'image de ses musiques, de ses répertoires, nous n'allons cesser de faire des allers-retours entre le présent, ce qui se joue aujourd'hui, ce qui se chante au Soudan, et le passé, car vous entendez bien que tout semble lié dans ses musiques, circulent de l'intérieur du pays vers l'extérieur, du présent vers le passé. Écoutez une jeune femme qui s'appelle Racha Cheikh Eldin. Elle est née à Khartoum en 71, elle a grandi au Soudan, mais elle a fini par émigrer en Espagne à l'aune de la Deuxième Guerre mondiale, guerre civile libanaise. Elle produit aujourd'hui des albums absolument magnifiques, et notamment son premier, Soudaniyat, qui reprend littéralement des chansons du répertoire de la Hakiba, qu'elle peut baptiser quand elle veut les présenter au reste du monde, comme folk song soudanaise. Où vous allez entendre, elle est tout à fait tributaire de cette longue tradition de la Hakiba soudanaise. Elle a évidemment un apport, puisqu'elle vit en Espagne. Elle aussi revendique comme ça une filiation avec notamment El Moubarak, dans l'approche un peu rhythm and blues de sa musique. Azar Al-Hay. Thank you. La voix et l'approche absolument fascinante hein, de ce répertoire avec, on sent hein, l'apport évidemment de cette guitare hispanisante, une approche aussi presque jazzistique, presque bossa-novesque dans la voix, on peut le dire, et ce flow, cette manière de chanter soudanaise qui a beaucoup influencé aussi bien en Éthiopie que dans certains pays arabes, qui reste là dans une forme de pureté. Les femmes ont beaucoup souffert de l'arrivée du coup militaire en 1989 qui va me porter un très sérieux coup, on l'a dit, hein, à cette incroyable scène musicale soudanaise qui s'était développée depuis l'indépendance du pays en 1956, puisque l'imposition de la charia va amener à fermer la plupart des salles de concert et des manifestations musicales en plein air. Et notamment pour les femmes, ça va être très compliqué. Autant évidemment les grands chanteurs s'exilent, c'est le cas de Mohamed Wardi, on vous l'a dit, de Mostafa Sid Ahmed et de bien d'autres. Pour les femmes, c'est encore plus évidemment violent parce que même leurs cérémonies rituelles comme celle du Zar vont être interdites. Une des figures les plus intéressantes dans ce contexte, c'est la chanteuse Setona, qui elle venait du Kordofan, qui avait grandi à Khartoum dans un milieu très interculturel puisqu'elle a grandi dans une partie de la ville où beaucoup d'émigrants venaient et vivaient, donc elle a été soumise autant aux Tarabes qu'aux Soukous Zaïrois, qu'aux High Life venus du Ghana, évidemment qu'à l'incroyable influence de la musique qui était en train de s'inventer à l'époque au Nigeria. C'est Setona qui va s'exiler au Caire et enregistrer deux albums, des albums en forme de testament, puisqu'avec son mari, tout au long de sa vie, elle a collecté toute une série de chants liés à la cérémonie dite du henné. Et c'est la raison pour laquelle, à son arrivée au Caire, elle enregistre deux albums déterminants qui sont pour nous une source inestimable de connaissances sur ces musiques du henné, donc vraiment une culture profondément féminine qui compte aujourd'hui beaucoup. Écoutez Setona, ici, dans un morceau intitulé Sawani, issu de son album Queen of Henna, la reine du henné, en toute simplicité.
مرات أقول نفحت علي نسيم الليل عطر مرة تجو صورة ملاك زارتني في أبهى الصور
أشرقت في عيني ثواني وغبت زي لمح البصر أشرقت في عيني ثواني وغبت زي لمح البصر
لا عرفت طيف لا في الأفق لا عرفت حلم جاب العطر أسأل عن نجوم معروف عن نسمة خبر حتى أسأل عن نجوم معروف عن نسمة خبر صيب يختفي رعش السعادة وقلبي بالحب انحسر
Setona et ces deux disques hyper importants hein, qui comptent, qui sont, vous allez les entendre si vous prenez le temps de les écouter, une espèce de magnifique bouquet de différentes musiques rythmiques chantées comme ça. Alors par exemple avec ce duo qui était impossible hein, concrètement en l'état depuis le coup d'état de 89. C'est une chanteuse voilà, qui préserve quelque chose, va l'enregistrer en Égypte. Il y a évidemment aussi ces musiciens qui, eux et elles, ont grandi en exil et qui sont à la recherche finalement de cette musique et de l'endroit où se situer par rapport à cette musique. C'est le cas de Al-Sara, une musicienne qui est née en 82 à Khartoum, au Soudan, de parents qui sont militants des droits humains et qui est obligée de quitter le pays à 8 ans parce que, évidemment, ses parents sont menacés en tant que dissidents en 89 par l'arrivée au pouvoir de Omar el-Béchir. Il s'installe au Yémen, puis s'enfuit à nouveau en 94 à cause de l'autre guerre civile, celle du Yémen, et gagne les États-Unis. Elle vit aujourd'hui à Brooklyn. Avant de faire de la musique elle-même, elle a étudié l'ethnomusicologie à l'université Wesleyan, ce qui est ça qui est intéressant dans sa démarche de musicienne. Elle consacre sa thèse aux arts, je vous en parlais, ce fameux rituel très féminin avec qui implique de l'encens, de la musique et où on arrive à une forme de transe. Justement, elle aussi, hein, elle était en train d'essayer de préserver des traditions qui ne pouvaient plus se pratiquer au Soudan. Elle finit par former en 2010 un groupe qui aujourd'hui est beaucoup écouté au Soudan, Al-Sara and the Nubatones, avec sa sœur qui s'intéresse justement, dans un premier temps, à tout ce répertoire des chansons dites du retour. Car on l'a bien compris, avant même 89, le Soudan est déjà un pays où il y a beaucoup de migration intérieure. Mais extérieure, il y a d'abord cette guerre civile qui a mené au coup d'état de 89, qui avait commencé dès 83. Et il y a eu, et on le sait moins, parce qu'évidemment, le Soudan, c'est ce pays du Nil, c'est cette terre dite des Nubiens, qui va beaucoup pâtir de la construction de l'immense barrage d'Assouan en Égypte, qui va à la fois noyer toute une série de villages et de villes, mais aussi rendre quasiment impraticable l'agriculture pour ce groupe, cette culture millénaire qui était la culture nubienne. Et ce désir donc, cette fatalité, en fait, cette rencontre avec ce répertoire dite des chansons du retour. Écoutez-la ici dans une interview en 2010, Al-Sara. Les chansons dites du retour, c'est un répertoire qui date à peu près des années 50, qui sont toutes centrées autour de l'idée de rentrer à la maison. Puisque dans les années 50, il y a cet immense barrage qui a été construit en Haute-Égypte et qui a donné lieu à l'un des plus importants déplacements de population du siècle. Et c'est ce qui a porté, disons, un coup fatal à cette culture nubienne. Parce qu'en fait, auparavant, il y avait déjà eu toute une série de petits barrages qui avaient déjà énormément déplacé les gens. Et ça, ça a été vraiment, disons, le dernier coup qui a dispersé quasiment tous les Nubiens à travers le pays, mais aussi ailleurs. Certains se sont installés dans la capitale du Soudan, Khartoum, mais d'autres aussi sont allés au Caire ou dans les pays du Golfe. À peu près partout où on pouvait trouver du travail, en fait. Et au Caire, notamment, ça a donné lieu à toute une génération de Nubiens qui s'étaient installés et qui ont commencé à écrire sur ce chez-eux qu'ils avaient quitté. Le travail de Sid Ahmed, par exemple, est celui qui nous a beaucoup troublés. Et cette musique, elle parle d'une maison, soit qui a disparu parce qu'elle n'existe tout simplement plus, ou qui n'existe plus parce que nous-mêmes, on a trop changé. Et moi-même, étant une immigrante aux États-Unis, étant un membre de la diaspora, je crois que c'est un des corpus qui m'a le plus touchée.
Sarah and the Nubatones qui essayent de reconstituer une musique dite du Nil, qui tenterait de retrouver une identité qui serait celle du Nil, hein, et de préserver quelque chose de ce qui serait perdu. Al-Sara, que vous entendiez dire, hein, en montrait qu'elle ne pourrait plus retourner vivre au Soudan car le pays qu'elle cherche, qu'elle pleure, a lui trop changé, qu'elle a trop changé. Et qu'elle peut le faire vivre et continuer à réfléchir dessus. À côté de ces tentatives de préservation, de réinterprétation, ces tentatives de faire exister une musique depuis d'autres lieux que le Soudan, par cette jeune génération, qu'il s'agit de Sinkan, d'Al-Sara, évidemment, il y a aussi des tentatives de plusieurs labels, après Habibi Funk qui avait redécouvert le jazz soudanais, le label Ostinato qui est allé chercher une culture, un peuple, qui a très peu pu enregistrer et qui s'est montré toujours très résilient, à nouveau mis en valeur à l'aune de cette fameuse révolution dite de 2019. Ce sont les Béja, particulièrement persécutés sous Omar El-Bashir. Écoutez Vixioni, le boss du label Ostinato, nous raconter pourquoi et comment cette musique Béja devait être enregistrée. Elle a donné lieu à un superbe enregistrement en 2022 à Omdurman, juste avant que la guerre oblige pratiquement tout le monde à fuir. Cet album qui date de 2022 s'appelle tout simplement Béja Power. Écoutez Vic Sioni nous en parler.
Déjà,
c'est
une communauté qui est assise sur l'une des régions les plus riches en ressources de tout le Soudan. Mais aucune de ces ressources n'a jamais profité directement au peuple Béja. Très peu d'investissement de la part du pouvoir en matière de santé ou d'éducation, un taux d'illettrisme énorme. Et pendant les 30 ans de dictature d'Omar el-Bashir, il a véritablement tenté d'effacer cette culture. En disant qu'elle était inférieure, qu'elle ne valait pas la peine d'exister, il a vraiment cherché à la dissoudre. Et puis est arrivé cet homme, Nouri, qui est un musicien absolument fabuleux, issu de cette communauté Béja, et qui s'est dit « Mon but, c'est de préserver cette musique et cette culture avant qu'elle ne disparaisse. » Tout en sachant que la musique Béja est l'une des plus belles du monde, selon moi. Et il a passé des années, voire des décennies, je dirais, à perfectionner son style, en se disant comment est-ce que cette musique qui est déjà très riche et qui est très vieille, c'est une musique extrêmement ancienne. Le peuple Béja existe depuis des milliers d'années, il y a des traces d'eux dans les hiéroglyphes de l'ancienne Égypte. Ils étaient là pendant le royaume de Kouch. C'est des musiques qui ont plus de 7000 ans. Et ces mélodies existent encore aujourd'hui, toujours.
Le son des Béja porté ici par Nouri and his Dorpa Band qu'on peut découvrir grâce au label Ostinato. On va écouter la voix de quelqu'un qui lui aussi est porteur d'une culture fragile qui a beaucoup souffert notamment d'être assise sur un territoire extrêmement riche en pétrole, ce qui souvent est une malédiction, vous le savez. Il s'appelle Emmanuel Djal, il est aujourd'hui connu comme un rappeur, mais il est né dans ce qui est aujourd'hui le Sud-Soudan, à une époque où le pays fait encore partie, dit, du Grand Soudan.
Il vit dans cette famille, de cette ethnie qui s'appelle les Nuer. Et ces Nuer sont un peuple nomade, la plupart du temps sous-estimé en termes de population, mais qui est le deuxième groupe ethnique de ce qui est aujourd'hui le Sud-Soudan. Il a très jeune subi évidemment cette fameuse deuxième guerre civile soudanaise qui va se terminer en 2005 avec la création du Soudan du Sud. Une enfance terrible, une enfance qui, à l'instar de bien des jeunes de sa région, va l'obliger à s'exiler. Un trajet d'exil absolument terrible qui va quasiment lui coûter la vie. Il s'en sortira presque par miracle. Et c'est la musique qui le sauve, dit-il. Une musique ensuite qu'il va énormément porter tout au long de sa vie. Il participera à de nombreuses manifestations justement pour la paix, notamment pour la paix au Darfour. Écoutez-le ici, dans une archive assez troublante, raconter comment la musique et l'imagination l'ont sauvé alors que justement il était en train de faire cette traversée extrêmement dangereuse pour quitter son pays, et comment la musique et le pouvoir de l'imagination sont, dit-il, les choses qui peuvent littéralement vous sauver dans la vie. J'avais 15 ans et j'ai été, je dirais, à l'endroit le plus terrible de ma vie. On était tous en train d'essayer de partir, mon ami était en train de mourir de faim, et moi tout ce que je pouvais lui dire, c'est que sans doute je pourrais le manger le lendemain. On a été 200 à quitter notre région, il n'y en a que 16, dont moi, qui avons survécu. Je me rappelle qu'on traversait un marais, que si on tombait dans l'eau, la seule chose qu'on allait voir, c'est des bulles apparaître à la surface, car personne n'allait venir nous chercher. Personne n'avait l'énergie physique de le faire. Je me rappelle qu'il y avait un garçon plus grand avec nous, et qui essayait de sauver les enfants qui tombaient et se noyaient. Ils se sont tous noyés. Et moi, je n'ai pu que regarder. J'avais envie d'aider, mais je ne pouvais pas. Votre cœur le veut, mais votre corps ne le peut pas. Et c'est là que j'ai découvert que j'étais figé, en fait. Quand votre présent, votre passé et votre futur convergent de cette manière, vous êtes frappé par le désespoir. L'une des choses à laquelle je me suis accrochée, c'est cette toute petite idée, toute petite, que peut-être j'apporterai un jour une solution et que si je survivais, je pourrais raconter ces histoires. Et c'est pour ça qu'il fallait que je reste en vie. Parce que je n'arrive pas à le raconter, mais quand il n'y a plus aucun espoir, en fait, vous êtes profondément paralysé. Vous n'avez plus envie de vivre. Il n'y a plus rien pour vivre puisque le présent est complètement bloqué, le passé est déprimant et le futur se referme sur vous. Et c'est là que j'ai découvert que je pouvais me cacher dans mon imagination. Ce qui est très dur à faire, en fait. Ça a l'air facile comme ça. Mais il faut essayer de trouver ce moment où le flot de pensées qui vous abreuve est à 95% atrocement négatif. Et en fait, il y a peut-être 2% de pensées qui ne sont pas atroces. Et ce qu'il faut, c'est s'accrocher à celles-ci, essayer de les magnifier. C'est mon véritable super pouvoir.
Asma salat na yarabi daragwa teme de par ka jaka shanga de ote maldo kotira mede nyuma nyoka mai ke mai katira mede yana nyoka mai katira mede mai dor ke bol ana ma teme de par kodina lo doran kedina doran tas teme de par I can't wait for that day han lo bu pio mi ada hey lo bu koi ping pali da sudan yeah When I see no more tears, no more fear, no cry, no tribalism, nepotism and racism in my motherland. I can't wait for that day when the wonderful people go back home and plant their nation in this generation. I can't wait to see that day.
Loyal long kongwa mishaka no mo binga na ngajin wo bio silia ko bio sibol wana manula no
quoi une chanson qui date du mi-temps des années 2000 mais dont les paroles sont toujours d'actualité quand le peuple reviendra au Soudan mon cœur sera rempli de joie et nous pourrons tous aider notre patrie. On aurait pu vous donner à entendre bien d'autres grands musiciens et musiciennes, Abdelkarim El Kabli ou encore le prodige du synthé Jantra. Mais ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup à Laura Dutèche-Pérez, l'attachée de production de la série musicale, à Anthony Thomasson, qui était à la technique aujourd'hui, à Thomas Jost, le réalisateur, à l'inénarrable et l'incroyable Maha Awad, qui m'a aidé et qui m'a fait découvrir ses musiques. N'oubliez pas de télécharger le premier épisode, de vous abonner à la série musicale, de la partager. À la semaine prochaine.